Vidocq, Mémoire, chapitre 43. Déguisé en marchand de chevaux, je partis avec les agents Coutry et Clément qui passaient pour mes garçons. Nous fîmes si grande diligence que malgré la rigueur de la saison et la difficulté des chemins, on était en hiver, nous arrivâmes à la capelle le lendemain soir, veille de la foire. Je connaissais le pays, je l'avais parcouru étant militaire. Aussi n'eus-je besoin que d'un instant pour m'orienter et prendre langue. Tous les habitants à qui je parlais de Pons-Gérard me peignirent comme un brigand qui ne vivait que de fraude et de rapine. Son nom était un sujet d'émoi. Tout le monde tremblait devant lui. Les autorités locales auxquelles il était dénoncé journellement n'osaient le réprimer. Enfin, il était un de ces êtres terribles qui font la loi à tout ce qui les entoure. Quoique, en fait, peu accoutumé à reculer devant une entreprise périlleuse, je ne résistais pas, moi, à vouloir tenter l'aventure. Tout ce que j'entendais dire de Pons piquait mon amour-propre. Et comment en venir à son honneur? Je n'en savais encore rien. En attendant l'inspiration, je déjeunais avec mes agents, et quand nous nous fûmes suffisamment garnis l'estomac, nous nous mîmes en route pour aller à la recherche de ce police de Raoul et de Cour. Ceux-ci m'avaient indiqué une auberge isolée qui était un repère de contrebandiers. Pons y venait fréquemment. Il était fort connu de l'aubergiste qui le regardait comme un de ses merveilleuses pratiques et il lui portait beaucoup d'intérêt. Cette auberge avait été si parfaitement désignée que je n'eus pas besoin d'autres indications pour la trouver. Escorté de mes deux compagnons, j'arrive, j'entre, sans plus de façon je m'assieds, et prenant les manières d'un homme qui n'a pas tranché aux usages de la maison, « Bonjour, la mère Bardadou, comment que ça va ?»« Bonjour, mes enfants, soyez les bienvenus. »« Ça va, comme vous direz, à la douce, que peut-on vous servir ?» Mais à dîner, nous mourrons de faim. Oh, ce sera bientôt prêt. Passez dans la salle et chauffez-vous. Et tandis qu'elle met le couvert, j'entame la conversation avec elle. Je suis sûr que vous ne me remettez pas. Attendez donc. Vous m'avez vu 20 fois l'hiver dernier avec Pons, quand nous venions prendre le pendant la nuit. « Quoi ? C'est vous ? » ?»« Je vois bien que c'est moi. »« Ah, mais je vous remets parfaitement. »« Et le compère Gérard, qu'en faites-vous ? » ?»« Toujours bien portant ? » ?»« Oh, pour ça, oui. »« Il a bu ici la goutte ce matin, en allant travailler à la maison le soir. » J'ignorais complètement où était située cette maison. Mais comme j'étais censé au fait de localité, je me gardais bien de m'en enquérir. J'espérais d'ailleurs que, sans adresser la question directe, je parviendrais à me la faire indiquer. Et à peine avions-nous les premières bien chouchées, la mère Bardou vint me dire « À vous parler de Gérard tout à l'heure, sa fille est là. »« Laquelle ?»« Elle est plus petite. » Aussitôt, je me lève, je cours vers la petite, je l'embrasse avant qu'elle ait le temps de me regarder, je l'interloque et lui demande successivement et coup sur coup des nouvelles de chacun des membres de sa famille. Quand elle m'eut répondu, je lui dis, Alors, c'est bien. Tu es une belle fille. Tiens, voilà une pomme. Tu vas la manger. Et puis, nous irons ensemble chez ta mère. Notre repas fut promptement terminé. Et alors, je sortis avec la petite fille que je suivais. Elle se dirigea d'abord vers la demeure de sa mère, mais une fois que je fus certain que l'aubergiste ne pouvait plus nous apercevoir, écoute, petite, dis-je à mon guide, sais-tu où est la maison là-bas? C'est là-bas, me répondit-elle, en me montrant avec un doigt de l'autre côté de la Mulsanne, de l'Hirson. À présent, bien tu diras à ta mère que tu as vu trois amis de ton père, qu'elle prépare un souper pour quatre, nous reviendrons avec lui. Au revoir, mon enfant. La fille de Gérard poursuivit son chemin. Nous ne tardâmes pas à nous retrouver vis-à-vis de la maison Lazare. Mais là, il n'y avait point de travailleur. Un paysan que je questionnais me dit qu'ils étaient un peu plus loin. Nous continuâmes de marcher et parvenus sur une éminence, je vis en effet une trentaine d'hommes occupés de réparer la grande route. Gérard, en sa qualité d'homme de piqueur, devait être au milieu de ce groupe. Nous avançons à 50 pas des travailleurs. Je fais remarquer à mes agents un individu dont la figure et la tournure me semblent bien tout à fait conformes au signalement qui m'a été donné. Je ne doute pas que ce soit Gérard. Mes agents partagent mon avis. Mais Gérard est trop bien entouré pour aller le saisir. Seul sa témérité le rendrait redoutable, et ses compagnons prennent sa défense. N'est-il pas vraisemblable que nous échouerons dans l'exécution du mandat? La conjoncture était embarrassante. À la moindre démonstration de notre part, Gérard pouvait ou nous faire un mauvais parti ou nous échapper en gagnant le large, la frontière. Jamais je n'avais senti davantage la nécessité de la prudence. Dans cette occasion, je consultai mes deux agents. C'étaient deux hommes intrépides. Oh, faites ce que vous voudrez, me répondirent-ils. Nous sommes prêts à vous seconder en tout. Dussions-nous y sauter le pas? Eh bien, leur dis-je, suivez-moi, et n'agissez que lorsqu'on sera temps. Et si nous ne sommes pas les plus forts, peut-être serons-nous les plus malins. Je vais droit à l'individu que je suppose être Gérard. Mes deux agents se tenaient à quelques pas de moi. Et plus j'approche, plus je suis convaincu que je ne me suis pas trompé. Enfin, j'aborde mon homme et, sans aucun préambule, je lui prends la tête dans mes mains et l'embrasse. Bonjour, Ponce, comment te portes-tu? Ta femme et tes enfants sont-ils en bonne santé? Ponce est comme étourdi d'un salut aussi brusque. Il paraît étonné, il m'examine. Ma foi, dit-il, je veux bien que le diable m'emporte si je te connais. Qui es-tu? Comment, tu ne me reconnais pas? Oh, je suis donc bien changé. Non, ma foi, je ne remets pas du tout. Dis-moi ton nom. J'ai bien déjà vu cette figure quelque part, mais impossible de me souvenir quand et où. Alors je me penchai à son oreille et je lui dis, je suis un ami de Courte et de Raoul. Ce sont eux qui m'envoient. dit-il, en me pressant affectueusement la main et en se tournant du côté des travailleurs. Faut-il que j'aie peu de mémoire? Je ne connais que lui. Un ami, nom de Dieu, un ami. Viens donc que je t'embrasse. Il me serrait dans ses bras à m'étouffer. Pendant cette scène, les agents ne me perdaient pas de vue. Ponce, les apercevant, me demande s'ils étaient avec moi. « Oh, ce sont mes garçons !» lui répondis-je. « M'en étais douté. Oh, c'est pas tout, tu dois avoir besoin de te rafraîchir. Ces messieurs aussi. Allez, il faut boire un coup. »« Oh, je le veux bien, ça ne nous ferait pas de mal. » « Ce n'est-il pas guignonnant dans ce fichu pays de loups? On ne peut rien trouver, si ce n'est qu'un ourson, à une grande lieue d'ici, que nous aurons du vin. Tu as sans doute passé. Eh bien, allons à Hirson. » Ponce dit adieu à ses camarades et nous partîmes ensemble. Chemin faisant, je me livrai à des observations d'où il me fut aisé de conclure qu'on ne m'avait pas exagéré la force de cet homme. Il n'était pas d'une haute stature, il avait tout au plus 5 pieds 4 pouces, mais il était carré dans sa taille. Sa figure brune, lors même qu'il n'était pas réhalé par le soleil, se distinguait par l'énergie de ses traits vigoureusement tracés. Il avait des épaules, un cou, des cuisses, des bras énormes. Ajoutez à cela de gros favoris, une barbe bleue excessivement fournie, des mains courtes, très larges et velues jusqu'au bout des ongles. Son air dur, impitoyable, appartenait à l'une de ces physionomies qui peuvent rire parce qu'elles sont mobiles, mais sur lesquels jamais le sourire ne vient se placer. Et tandis que nous marchions côte à côte, je voyais que Ponce me considérait de la tête aux pieds. « Dieu, Dieu !» me disait-il, en s'arrêtant un instant, comme pour me contempler. « Quel gaillard ! Tu peux te vanter que tu remplis joliment ta culotte de chape de peau, n'est-ce pas? Le nain ne fait pas d'un pli. Oh, je ne suis pas mince non plus. Et en nous voyant, on peut bien dire que ces deux font la paire. Ce n'est pas comme ce criquet, ajouta-t-il en désignant Clément, qui était le plus petit des agents de la brigade. Je suis bien que je l'avalerai « comme ça, mon déjeuner !»« Oh, ne te fie pas !» répliquai-je. « C'est possible que quelquefois, c'est bas du cul, c'est tout l'air !» Après les propos de gens qui n'ont rien de mieux à se dire, Ponce me demanda des nouvelles de ses amis. Je lui dis qu'ils étaient en bonne santé, mais que, comme ils n'avaient pas vu depuis l'affaire d'Arwen, je les avais laissés fort inquiets de ce qu'il était devenu. Le maire d'Arwen était un L'affaire d'Arwen était un assassinat. Lorsque je lui en parlais, il ne sourcilla pas. Et qu'est-ce qui t'amène dans ce pays? Me dit Ponce. Ferais-tu la Matouche par hasard? Comme tu le dis, mon homme, je suis venu ici pour passer une fronde, une bande de chevaux. On me fait entendre que tu pourrais me donner un coup de main. Oh, tu peux compter sur moi, me protesta Ponce. Et en causant de la sorte, nous arrivons à Hirson, où il nous fait entrer chez un horloger qui débitait du vin. Nous voici tous les quatre attablés. On nous sert et Tout en buvant, je ramène la conversation sur Kurt et Raoul. Alors qui il est, lui dis-je, ils sont peut-être bien dans l'embarras. Et pourquoi cela? Ben, j'ai pas voulu te l'apprendre de suite, mais il leur est arrivé qu'un malheur. Ils ont été arrêtés. Et je crains bien qu'ils ne soient encore en prison. Et le motif? Oh, le motif, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que j'étais à déjeuner avec Kurt chez Raoul lorsque la police y a fait une descente. On nous a ensuite interrogés, tous les trois. J'ai été aussitôt relâché. Quant aux autres, on les a retenus et ils sont au secret. Et tu ne serais pas averti de ce qui leur est arrivé si Raoul n'avait pu, en revenant de chez l'interrogateur, me dire deux mots en particulier. C'est pour que je te prévienne d'être sur tes gardes, parce qu'on m'avait parlé de toi. J'en dirai pas davantage. Mais qui donc vous a arrêté? Me demanda Ponce, qui paraissait contrarié de l'événement d'un. Monsieur Vidocq? Oh, le gredin! Mais qu'est-ce que c'est donc que ce Vidocq qui fait tant parler de lui? J'ai jamais pu le voir en face. Une fois seulement, j'ai aperçu par derrière un particulier qui entrait chez Cosette. On m'a dit que c'était lui, mais j'en sais rien. Et je paierais volontiers quelques bouteilles de bon vin à ceux qui me montreraient. Bon, il n'est pas si difficile de le rencontrer, puisqu'il est toujours par voie et par chemin. Oh, qu'il ne tombe pas sous ma coupe. S'il était ici, je lui ferais passer un mauvais quart d'heure. Tu es comme les autres. S'il était là, tu te tiendrais quoi? Et ce serait encore le premier à lui offrir un coup à boire. Et en disant ces mots, je tendais mon verre et il versait. Moi, je lui offrirais de la merde plutôt. Bon, non, tu lui offrirais un coup à boire, le dis-je. Ah non, non, plutôt mourir. En ce cas, tu peux mourir quand tu voudras. C'est moi, et je t'arrête. Oui, je t'arrête. Et en approchant ma face contre la sienne, je te dis, couillé, que tu es servi, et que si tu bronches, je te mange le nez. Clément, mettez les menottes à monsieur. On ne se figure pas quel fut l'étonnement de Ponce. Tous ses traits étaient bouleversés. Ses yeux semblaient s'échapper de leurs orbites. Ses joues étaient frémissantes. Ses dents claquaient. Ses cheveux se dressaient. Peu à peu, ces symptômes d'une crispation qui l'agitait, que le haut du corps s'effacèrent, et s'opéra une autre révolution. Quand on lui eut attaché les bras, il resta 25 minutes immobile et comme pétrifié. Il avait la bouche béante, sa langue était collée à son palais, et ce ne fut qu'après des efforts réitérés qu'il parvint à l'en détacher. Il cherchait en vain de la salive pour humecter ses lèvres. Et en moins d'une demi-heure, le visage de ce scélérat, successivement pâle, jaune, livide, offrit toutes les nuances d'un cadavre qui se décompose. Enfin, sorti de cette espèce de léthargie, Ponce articula ces mots. Quoi? Vous êtes Vidocq? Oh, si j'avais su lorsque tu m'as accosté, je t'aurais purgé la terre d'un foutu. C'est bon, lui dis-je, je te remercie. En attendant, tu m'as donné dans le panneau. Et tu me dois quelques bonnes bouteilles de vin. Au surplus, Je t'en tiens quitte. Tu voulais voir Vidocq? Eh bien, je te l'ai montré. Une autre fois, cela t'apprendra à ne pas tenter le diable. Les gendarmes que je vis appeler après l'arrestation de Ponce ne pouvaient en croire leurs yeux. Pendant la perquisition qui nous était ordonnée de faire à son domicile, le maire de la commune se confondit envers nous en action de grâce. « Quel éminent service, nous disait-il, vous avez rendu au pays. Il était notre épouvantail à tous. Vous avez délivré d'un véritable fléau. » Tous les habitants étaient satisfaits de voir Ponce entre nos mains, et pas un de ceux qui s'émerveillaient de ce que le caprice de ce scélérat s'était effectué sans coup férir. La perquisition terminée, nous allâmes coucher à la capelle. Ponce était attaché avec un de mes agents qui ne le quittait ni jour ni nuit. À la première halte, je le fis déshabiller afin de m'assurer qu'il n'avait aucune arme cachée. Et en le voyant nu, je doutais un instant que ce fût un homme, tant son corps était couvert de poils noirs, touffus et luisants. On lui prit pour l'Hercule Farnèse, enveloppé dans la peau d'un ours. Ponce paraissait assez tranquille. Il ne se passait rien d'extraordinaire dans sa personne. Seulement, le lendemain, je m'aperçus que pendant la nuit, il avait avalé plus d'un quart-ron de tabac fumé. J'avais déjà fait la remarque que dans de grandes anxiétés, les hommes, qu'on a l'habitude du tabac sous une forme ou sous une autre, en font toujours un usage immodéré. Je savais qu'il n'est pas de fumeur qui achève plus promptement une pipe qu'un condamné à mort, soit lorsqu'il vient d'entendre sa sentence au tribunal, soit aux approches du supplice. Je n'avais pas encore vu un malfaiteur dans la position de Ponce introduire en si grande quantité dans son estomac une substance qui, par son acrimonie, ne peut avoir que de funestes effets. Je craignis qu'il fût incommodé. Oh, peut-être avait-il l'intention de s'empoisonner. Je lui fis retirer le tabac qui lui restait et je prescrivis de ne plus lui rendre que par petites parties, à condition qu'il se bornerait à mâcher. Ponce se soumit à l'ordonnance. Il n'avala plus le tabac. Il n'y avait jamais apparence que ce fût lui qui l'avait avalé. Il fut fait le moindre mal.